بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهذه أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من الكتاب Donc les principaux résultats qu'on retire du livre de Al-Khatib al-Baghdadi sur l'écriture du hadith. أولا أنه لم يصح حديث في النهي عن كتابة الحديث سوى حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم مع اختلاف بين البخاري ومسلم في رفعه ووقفه. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de hadith authentique sur l'interdiction d'écrire le hadith, si ce n'est un hadith qui est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui est rapporté dans Sahih Muslim. Et en plus, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et l'imam Muslim, rahimahullah, ils divergent quant à ça, est-ce qu'il est rapporté du prophète ou de la parole d'Abu Sa'id. Thaniyan, anna al-amr istaqarra fi hayatih sallallahu alayhi wa sallam ala ibahati al-kitabah. وقد قدم المؤلف عدة أدلة على ذلك بل ذكر أدلة من الكتاب والسنة على الحث على الكتابة. Deuxièmement, c'est que la chose qui était constante et l'habitude à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il était licite d'écrire le hadith. Et l'écrivain, c'est-à-dire al-Khatib, il a montré plusieurs preuves à ça et il a même donné des preuves du Coran et de la Sunna qui encouragent à écrire la science. ثالثا أن التدوين بمعناه الواسع وهو الجمع قد بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, c'est que التدوين dans son sens large, c'est-à-dire le fait de regrouper par l'écriture, la compilation par l'écriture, a bel et bien commencé à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. رابعا أن امتناع من امتنع من الصحابة والتابعين عن كتابة الحديث ليس للنهي الوارد في حديث أبي سعيد الخدري ولكن هذا الامتناع معلل بأسباب أخرى منها. Quatrièmement, c'est que les compagnons et les tabi'in qui n'ont pas voulu écrire le hadith ou qui ont interdit, ou comme ça a été cité dans le hadith de Abu Sa'id, cette interdiction ou le fait de ne pas écrire est à une cause précise ou à des causes qui sont citées, qui sont الخوف من كباب الناس على الكذب وانشغالهم بها عن القرآن. وقد أورد الخطيب عن السلف نصوصا كثيرة تصرح بذلك. Premièrement, la peur que les gens se reposent sur l'écriture du hadith et que ça les occupe et les détourne de s'occuper et de la lecture du Coran. Et al-Khatib, il a cité beaucoup de paroles des salafs qui sont claires sur ce sujet, c'est-à-dire texto, elles prononcent cette cause, c'est-à-dire que ils détestent d'écrire à cause de cette cause-là. ومنها الحفاظ على ملكة الحفظ عند المسلمين إذ الاتكال على الكتاب يضعفها ولذلك كان بعضهم يكتب ثم يمحو ما كتب ولو كان النهي عن الكتابة مستقرا عندهم لما كتب ابتداء. Deuxièmement, c'est que ils voulaient protéger la capacité à mémoriser des musulmans, car le fait de se reposer sur l'écriture, ça affaiblit la mémorisation, comme on l'a déjà expliqué. Et c'est pour ça que certains d'entre eux, ils écrivaient les hadiths, et après l'avoir appris par cœur, ils effaçaient ce qu'il avait écrit, c'est-à-dire pour pas se reposer sur le livre, pour que sa mémoire elle reste forte. Et si l'interdiction de l'écriture, elle était connue chez eux, et elle était affirmée, déjà dès le départ, ils ne l'auraient pas écrit du tout, même pas pour réviser, même pas pour l'apprendre. وقبل أن أنهي الكلام عن هذه الفقرة أنقل هنا كلام أهل اللغة في التفريق بين معنى التدوين ومعنى التصنيف. لا يدي il mentionne des paroles des gens de la langue arabe sur la différence entre التدوين et التصنيف. Donc ça, ici ça nous intéresse pas. التدوين c'est le fait d'écrire mais dans un sens de compilation et التصنيف c'est le fait d'écrire de façon organisée comme écrire un livre avec des chapitres etc. ثانيا جهود الصحابة رضي الله عنهم في تدوين السنة المطهرة ونقلها إلى الأمة. Deuxièmement, les efforts qu'ont fait les compagnons dans l'écriture de la sunna et dans le fait de la répandre dans la communauté. Donc nous on a déjà vu les efforts qu'ils ont fait dans l'assiduité et l'apprentissage de la sunna. Là maintenant c'est les efforts dans l'écriture de la sunna. لقد كانت جهود هذا الجيل المبارك هي الأساس الأول في تدوين السنة وحفظها ونقلها إلى الأمة كما كانت جهودهم رضوان الله عليهم هي الأساس في نشر الدين وترسيخ العقيدة وحماية السنة من كل ما يشوبها. Il dit les efforts de cette génération bénie sont la base dans l'écriture de la sunna, dans la protection et la préservation de la sunna, et dans le fait de répandre la sunna et de la transmettre à la communauté. De même que leurs efforts, ils sont la base dans le fait de répandre la religion et le fait d'implanter dans les gens la aqida, le dogme et la croyance, et sont une base, leurs efforts sont une base dans la protection de la sunna de tout ce qui la contredit. Wa fi ma yali namadhij min tilka al-juhud wa aktafi bin namadhij huna mushiran ila al-masadir التي استوعبت أو حاولت الاستيعاب وذلك لأن المقام هنا لا يتسع لأكثر من هذه النماذج. Il dit ici, je vais citer certains modèles de cette assiduité qu'ils ont eu, ces efforts qu'ils ont fait dans l'écriture. Il dit, sans citer tout, parce que c'est impossible dans ce petit livre, il dit, mais il montre d'où il les a tirés à partir de livres qui ont essayé eux de regrouper le maximum de textes qui montrent l'importance que les efforts que les sahabas ont donnés dans l'écriture du hadith. أولا الحث على حفظ الحديث وتثبيت ذلك الحفظ حتى كان كثير منهم يأمر تلاميذه بالكتابة لتثبيت حفظهم ثم محو ما كتبوه حتى لا يتكل على الكتاب. Premièrement, leurs efforts se sont manifestés dans l'encouragement des autres à mémoriser الحفظ, à mémoriser le hadith et à affirmer et à ancrer cette mémorisation dans le cœur, c'est-à-dire pas seulement l'apprendre, mais aussi à ce que ce soit ancré. À tel point que certains parmi les sahaba, ils ordonnaient à leurs élèves d'écrire la science et d'écrire le hadith pour s'assurer de leur mémorisation, c'est-à-dire pour s'aider avec le livre à la mémorisation et d'effacer ensuite ce qu'ils avaient écrit une fois qu'ils avaient mémorisé, pour pas se reposer sur le livre. قال الخطيب البغدادي وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه فإذا أتقنه محى الكتاب خوفا من أن يتكل القلب عليه فيؤدي إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ. Ça on l'a déjà cité, la parole del khatib qui dit, plus d'un parmi les salaf cédait à la mémorisation du hadith par le fait qu'il l'écrit et ensuite il l'étudie à partir de son livre. Puis une fois qu'il le connaît parfaitement, il efface ce qu'il y a dans son livre de crainte qu'il ne se repose sur ce qu'il a écrit et que cela l'amène à ce que sa mémorisation s'affaiblisse. ثانيا الكتابة بالسنة بعضهم إلى بعض ومن أمثلة ذلك ما يلي. Deuxièmement aussi, leurs efforts se sont manifestés dans l'envoi de lettres dans lesquelles ils s'écrivaient les uns aux autres la sunna. Donc ici quelques exemples. أولا كتب أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه بعض الأحاديث النبوية وقضاء أبي بكر وعمر وعثمان وأرسله إلى مروان بن الحكم. أسيد بن حضير الأنصاري, donc un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, a écrit des hadiths et aussi des fatwas de Abu Bakr, de Omar et de Uthman et les envoya à Marwan ibn al-Hakam, donc un des khulafa de la dawla al-Umawiyya, c'est-à-dire de la dynastie des Omeyyad, donc qui fait partie des Tabi'in. وكتب جابر بن سمرة رضي الله عنه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بناء على طلبه ذلك منه. جابر بن سمرة, donc c'est un sahabi connu, lui aussi il a écrit des hadiths et il les envoyait à Amir, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, parce que Amir rahimahullah lui avait fait cette demande, donc il lui a écrit les hadiths et il lui a envoyé. وكتب زيد بن أرقم رضي الله عنه بعض الأحاديث النبوية وأرسل بها إلى أنس بن مالك. Pareil, زيد بن أرقم رضي الله عنه, il a écrit des hadiths et les envoya à Anas رضي الله عنه. وكتب زيد بن ثابت في أمر الجد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بأن على طلب عمر نفسه. زيد بن ثابت, donc qui faisait partie des grands savants de cette communauté, notamment dans la science des héritages, il a écrit en ce qui concerne l'héritage du grand-père, la part du grand-père dans l'héritage, et il a écrit, donc les hadiths qui concernent ce sujet, à Omar ibn al-Khattab, quand Omar lui a demandé. Jama'a Samurat ibn Jundub ma'indahu min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'atha bihi ila ibnihi Sulayman, wa qad athna l'imam Muhammad ibn Sirin ala hadhi risala, faqal, fi risalati Samura ila ibnihi ilmun kathir. Samura ibn Jundub, Ibn Jundub, un autre compagnon, a écrit des hadiths et les a envoyés à son fils Sulayman. Et l'imam Muhammad ibn Sirin, parmi les tabi'in, a dit a vanté cette lettre. Donc ça veut dire qu'elle a bel et bien été préservée dans les premières générations et ils ont retiré les hadiths. Et il a dit, il y a dans cette lettre beaucoup de science. وكتب عبد الله بن أبي أوفى بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن عبيد الله. Pareil, un autre compagnon qui s'appelait عبد الله بن أبي أوفى a écrit des hadiths et les a envoyés à عمر بن عبيد الله رحمه الله. Donc ça c'est que des exemples qu'il a voulu citer, et comme il dit, dans les al-masadir, c'est-à-dire les livres originaux, on trouve plus de textes sur ce sujet. Notamment il dit ici, je vous cite un peu les références pour que vous ayez des idées. Là, il a cité 6 exemples. Donc, les exemples, ils sont tirés de le Mousnad de l'imam Ahmed, l'imam Muslim dans son Sahih, le Mousnad de l'imam Ahmed, Sunan ad-Daraqutni, rahimahullah, Tahzib al-Tahzib d'Ibn Hajar et Sunan Abi Daoud et al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. ثالثا حث تلاميذهم على كتابة الحديث وتقييده ومن أمثلة ذلك. Troisièmement, parmi les efforts des Sahaba sur l'écriture, le fait d'encourager leurs élèves à écrire le hadith. Et parmi ces exemples, أولا كان أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه يحث أولاده على كتابة العلم فيقول يا بني قيد العلم بالكتاب وكان يقول رحمه الله ورضي الله عنه كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما. Anas ibn Malik, il encourageait ses fils, sachant qu'Anas ibn Malik, il a eu combien d'enfants? Une centaine d'enfants, radiallahu anhu. Conformément à la doa du prophète, il a demandé qu'Allah lui allonge sa vie et lui donne beaucoup d'enfants, et il a vécu une centaine d'années, il a eu 100 enfants, ou environ 100 enfants. Il disait à ses enfants, ô mes enfants, écrivez. Si on traduit littéralement, c'est-à-dire attacher la science par l'écriture. Parce que le taqid, c'est le fait d'attacher quelque chose. C'est comme s'il leur disait préserver la science en l'écrivant. Et il disait aussi, radiallahu anhu, il parle au passé, donc il parle des compagnons. Il dit, nous ne considérerions pas la science de celui qui n'écrit pas comme une science. C'est-à-dire, s'il n'écrivait pas, on ne considérait pas ce qu'il disait. Donc ça, cette parole de Anas, ou ces paroles de Anas, elles sont notamment dans Taqiyyad al-Ain, de l'Khatib al-Baghdadi, donc le livre dont on parlait jusqu'à maintenant, et Tabaqat ibn Sa'd. Tabaqat ibn Sa'd, c'est un livre sur Ilm al-Rijal, c'est-à-dire un livre qui te parle des rapporteurs du hadith. Rawa al-Khatib bi sanadihi an 'iddatin min talamidhi Abdullah ibn Abbas, hibra al-Ummah, annahu kana yaqul, qayyidu al-ilm bil-kitab, khayru ma qayyida bihi al-ilm al-kitab. Et plusieurs parmi les élèves de Abdullah ibn Abbas, et il a eu beaucoup d'élèves qui étaient eux-mêmes des imams parmi les tabi'in, ont dit que Ibn Abbas, il leur disait, attachez pareil, c'est-à-dire préserver la science en l'écrivant. La meilleure chose par laquelle on a préservé la science, c'est l'écriture. Donc il dit, Al-Khatib al-Baghdadi, il a cité avec des chaînes de transmission dans Taqiyyad al-Ilm, que plusieurs parmi les élèves d'Ibn Abbas leur disaient, préserver la science en l'écrivant, car on n'a pas préservé la science par quelque chose comme l'écriture. Donc ça c'est dans Taqiyyad al-Ilm et aussi dans Jami' Bayan al-Ilm. De qui? Pour voir qui c'est qui suit. De Ibn Abd al-Barr, l'imam qui est mort la même année que le Khatib en Andalousie. وروى أيضا بأسانيده من عدة طرق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قيد العلم بالكتاب. Avec plusieurs chaînes de transmission et de plusieurs voies différentes, il a ramené que Omar ibn al-Khattab a dit, رضي الله عنه, préserver la science ou préserver le savoir en l'écrivant. Donc ça pareil, c'est dans les mêmes livres. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من يشتري مني علما بدرهم قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم. Après il a rapporté, donc c'est Ibn Sa'd et aussi le Khatib, ils ont rapporté que Ali radiallahu anhu a dit, qui achète de moi une science pour un dirham? Et Abu Khaythama il explique, il dit, Ali voulait dire par là, qui achète des feuilles pour un dirham pour qu'il y écrive la science, c'est à dire la science que je vais lui transmettre. Donc ce qui montre que Ali encourageait les gens à écrire la science. Et la science à l'époque, qu'est-ce qu'il voulait dire par la science? C'était les hadiths. Rabi'an, tadwinu al-hadithi fi al-suhufi wa tanaqulaha bayna al-shuyukh wa al-talamidh. Quatrièmement, l'écriture du hadith dans les feuilles et le fait de se léger échanger entre les shuyukh et les élèves. ولقد كانت هذه الصحف هي النواة الأولى لما لما صنف في القرنين الثاني والثالث من الجوامع والمساند والمسانيد والسنن وغيرها. Il dit donc ces feuilles qui étaient dans les premières générations sont les bases de ce qui sera écrit au deuxième et au troisième siècle, comme al-jawami', pluriel de jami', comme le Sahih al-Bukhari, Jami' al-Tirmidhi, ou alors al-Masanid ou al-Sunan. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. Là, il cite une parole de Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, qui dit, rahimahullah, il dit ce qui était écrit à l'époque des compagnons et des tabi'in, c'était pas une écriture organisée avec des chapitres. C'est-à-dire, à l'époque des compagnons et des tabi'in, les hadiths qui étaient écrits, c'est pas tu prends le livre et t'as le chapitre des ablutions, comme nous on a maintenant, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Il dit c'était écrit pour la mémorisation et la révision seulement. Donc le but, c'était pas le livre en lui-même. Le livre, ils s'en servaient. C'était juste pour préserver les hadiths, c'est tout. ثم إنه في عصر التابع التابعين صنفت التصانيف وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جمع كلام الصحابة. Il dit, et après l'époque, donc à l'époque de التابعين, donc la troisième génération, c'est là que les livres ils ont été écrits. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, donc, maintenant qu'on a vu tout ça? Les livres dans le sens des livres bien écrits avec des chapitres, c'est ça qu'il veut dire. Et certains parmi les gens de science se sont occupés à réunir la parole du prophète et d'autres à réunir la parole des sahaba. قال عبد الرزاق الصنعاني أول من صنف الكتب ابن جريج وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن كثير كتبه. عبد الرزاق الصنعاني, un des shuyukh de l'imam al-Bukhari, il disait le premier à avoir écrit les livres c'est Ibn Jurayj. Donc un imam de la génération de l'imam Malik à la Mecque. Donc là, maintenant on comprend ce qu'il veut dire par le premier à avoir écrit les livres. C'est-à-dire le premier à avoir écrit des livres de hadith que la personne elle peut directement lire et appliquer avec des chapitres. Pas le fait de simplement écrire. Simplement écrire et compiler, c'était présent déjà avant. Et il dit Al-Awza'i. Al-Awza'i, c'était un imam de la, toujours de la génération de l'imam Malik au Sham, donc en Syrie. Abu Amr al-Awza'i, rahimahullah, quand il est venu à Yahya ibn Kathir, il a commencé à écrire ses livres. Donc ça veut dire qu'aussi l'Awza'i avait écrit des livres. Il dit comme exemple de ces suhuf, c'est-à-dire de ces livres qui étaient écrits à l'époque, donc ça c'est l'écriture primaire, c'est-à-dire l'écriture elle a évolué. Et toujours une chose, quand elle commence au début, elle est globale, elle n'est pas précise. Donc l'écriture du hadith c'était comme ça. Les premières suhuf, c'était une écriture primaire. C'est-à-dire les hadiths qu'il connaît, il les écrit. Sans plus. Il ne cherche pas à faire un livre sur les ablutions, un livre sur l'aqidah, à mettre les paroles sur le wudu dans un même chapitre. Simplement, il compile. Et aussi, il y a aussi peut-être un secret derrière ça. C'est parce que les salafs, au maximum, ils se reposaient sur la mémoire. Et donc, ils évitaient le fait de classer les hadiths. Comme nous maintenant on a la facilité, si tu veux chercher un hadith sur l'ourdo, dans n'importe quel livre de hadith, ça va se trouver à peu près au début. Ou enfin dans les livres qui sont organisés par chapitre, ça va se trouver à peu près au début. Donc c'est facile. Mais comme c'est facile, eh ben ça part vite. Alors que si tu as un groupe de feuilles, et tu sais que dedans il y a des hadiths sur l'ourdo, sur la croyance, sur ci, sur ça, sans qu'ils soient classés, ça veut dire qu'à chaque fois, tu es obligé de tourner les pages, lire les hadiths pour trouver ton hadith. Et c'est là que ça rentre, avec les efforts et la souffrance. Donc là, ici, des exemples de ces feuilles qui étaient écrites. Il dit, « Awalan, sahifat Abi Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, fiha fara'id al-sadaqa. » Il dit, « La sahifa de Abu Bakr. » Donc, Abu Bakr avait un groupe de feuilles dans lesquelles il y avait des hadiths et qui concernaient la zakat. روى الخطيب بسنده إلى أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق بعثه مصدقا وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقة وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الحديث بطوله. الخطيب il a ramené une parole de Anas ibn Malik avec une chaîne de transmission. Donc Anas, le compagnon, qui dit que Abu Bakr as-Siddiq l'avait envoyé comme Moussaddiq, c'est-à-dire comme pour récolter la zakat pour le gouvernement. Et lui avait donné un kitab, entre guillemets un livre. En fait, ce qui veut dire ici, c'est pas vraiment un livre, c'est des feuilles dans lesquelles étaient écrites justement les détails de la zakat. Et il y avait dessus le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était écrit voici l'obligation de l'aumône ou de la zakat qu'a imposé le messager d'Allah aux musulmans. Et après le hadith il est complet, et ça le hadith on le retrouve dans Sahih al-Bukhari. Ce long hadith où il y a tout le détail, il est préservé jusqu'à maintenant, vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari. Il dit par exemple pour autant de chameaux, il faut donner tel genre de chameau, ou tel nombre de moutons, etc. etc. صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج الخطيب وابن عبد البر من عدة طرق عن علي بن أبي طالب أنه خطب الناس فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله تعالى وهذه صحيفتي فقد كذب. علي بن أبي طالب الخطيب البغدادي وابن عبد البر tous les deux ils ont ramené avec plusieurs voies de transmission jusqu'à علي بن أبي طالب qui l'a dit dans un discours. Il a dit, celui qui prétend que nous lisons autre chose, que nous avons plutôt quelque chose à lire autre que le livre d'Allah, c'est-à-dire il parle de lui, il ne parle pas des musulmans, il parle de ce qu'il a lui, autre que le livre d'Allah, et que ses feuilles, donc il a montré des feuilles, il a menti. Qu'est-ce qu'on en comprend? Que Ali, il avait des feuilles qu'il avait écrites du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec des hadiths. قال الراوي عنه وكانت الصحيفة معلقة في سيفه. Et ses feuilles, elles étaient accrochées à son sabre. Wa fiha asnanul ibil. Et ça concernait asnanul ibil. Asnanul ibil, ce que je connais, c'est les âges des chameaux par rapport à la zakat. Parce que les chameaux, en français on dit un chameau, en arabe il y a le chameau, il a plein de noms selon son âge, est-ce qu'il est mâle ou femelle, etc. Et dans la zakat, ça c'est pris en compte. C'est-à-dire, si tu as autant de chameaux, tu vas donner un chameau qui a tel âge. Si tu en as plus, tu vas donner un chameau qui est plus vieux, etc. etc. Donc il avait ça écrit dans ses feuilles, tout le détail. Wadjirahat. Al-Jirahat, à ma connaissance, c'est les blessures et les compensations. Al-Diya. C'est-à-dire que celui qui casse une dent, celui qui casse un bras, combien il doit donner, combien il doit payer, etc. Waqawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Madinatu haramun ma bayna irin ila thawr. Faman ahdatha fiha hadathan. Aw awa muhdithan. Fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Al-Hadithu bitulihi. Et il y avait aussi dans les feuilles de Ali le hadith que vous connaissez qui dit la Médina, donc c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est haram, c'est-à-dire elle est sacrée, entre Ir et Thawr, c'est-à-dire entre ces deux montagnes. Celui qui est commet quelque chose, man ahdatha hadathan, c'est-à-dire celui qui est commet un crime, ou alors on peut interpréter aussi celui qui commet une innovation, ou qui protège un muhdith. On peut l'interpréter soit muhdith dans le sens il a fait un crime, et une personne elle vient le protéger pour pas que l'État c'est-à-dire il protège quelqu'un qui fait la fornication, quelqu'un qui vend des drogues, etc. Ou alors man awa muhdithan, yarhamukallah, dans le sens il protège à Médine un innovateur. Donc les deux sens ils sont cités. Il dit alors celui-là a la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. Ça, ce hadith il est rapporté notamment par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc regardez comment la sunna elle a été protégée. Certes, les feuilles de Ali, si tu les cherches maintenant, tu vas plus les trouver. Mais la transmission, elle a existé. Et maintenant, ce qu'il y a dans les feuilles de Ali, on l'a. Mais dans Sahih al-Bukhari. Donc ça s'est transmis. Donc il n'y a rien qui s'est perdu. Ou peu de choses. Wa sahifat Abdillah ibn Amr ibn al-As al-ma'roufati bis sahifati s-sadiqa. An Mujahid, qal, ataytu Abdillah ibn Amr. فتناولت صحيفة من تحت مفرشه فمنعني قلت ما كنت تمنعني شيئا قال هذه الصادقة هذه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. Toujours dans Taqid al-Ain de l'imam al-Khatib al-Baghdadi et toujours rapporté par aussi Ibn Abd al-Bar, donc ça montre notamment la sûreté de ces transmissions. Et c'est une preuve d'Allah pour l'humanité, parce que et Al-Khatib al-Baghdadi il est en Irak et l'autre il est en Espagne. Ils peuvent pas se téléphoner à l'époque pour dire on va inventer la même chaîne de transmission et le même hadith ou les mêmes paroles. Mujahid, donc vous connaissez Mujahid, un des imams parmi Tabi'in, notamment dans le Tafsir, un grand élève d'Abdullah ibn Abbas à la Mecque, il disait: je suis venu chez Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc c'est qui Abdullah ibn Amr ibn al-As? Un compagnon, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Celui qui connaissait plus de hadith qu'Abu Huraira et qui écrivait, et à qui le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écrit. Il a dit, je suis venu chez lui. Mujahid, il est venu chez Abdullah ibn Amr ibn al-As et il a voulu prendre des feuilles qui étaient sous la couche de Abdullah ibn Amr. Et il l'a empêché. Et Mujahid, il lui a dit: d'habitude, tu m'empêches rien. C'est-à-dire, je fais ce que je veux chez toi. Et il lui a dit: oui, mais celle-là, c'est As-Sadiqa. Il dit: ça, c'est la véridique. C'est le nom qu'il a donné à son livre. Il dit: ça, c'est la véridique. Il dit: c'est ce que j'ai entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'y ait personne entre lui et moi. C'est-à-dire sans transmetteur, directement de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mise à l'écrit déjà à l'époque. Donc regardez comment on est loin de ce qu'ils veulent nous faire croire les occidentaux et les ennemis de l'islam ou les ennemis de la sunna qui disent: ouais, le hadith c'est comme les évangiles. C'est-à-dire ça a été écrit 100 ans après Jésus, les évangiles, par des gens qui n'ont pas rencontré Jésus. Les hadiths c'est pareil. Ils disent: donc le Coran c'est fiable, mais le hadith ça c'est pas fiable, ça est venu bien après. Donc tout ça c'est des paroles de gens ignorants. Ils n'ont pas étudié le sujet. وهذه الصحف الثلاث كلها كتبت في حياته صلى الله عليه وسلم وهناك غيرها كثير مما كتب في حياته صلى الله عليه وسلم. Il dit donc les feuilles d'Abu Bakr, de Ali et de Abdullah ibn Amr, elles ont été écrites à son époque et en a encore beaucoup d'autres. وصحيفة عبد الله بن أبي أوفى ذكرها الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيح باب الصبر عند القتال. Aussi les feuilles de... Donc Sahifa, c'est ça que je traduis par les feuilles, parce qu'on ne va pas dire le livre, parce que c'était plus une compilation de hadith dans des feuilles, de Abdullah ibn Abi Awfa, un compagnon. Et l'imam al-Bukhari, il a mentionné ces feuilles, donc ce qu'il y a dans ces feuilles, dans le chapitre du djihad, dans Sahih al-Bukhari. Aussi la Sahifa de Abu Musa al-Ash'ari. Là, donc il dit Là, il ne donne pas de référence, si ce n'est des références contemporaines. Après, il dit Sahifa Jabir ibn Abdillah. La Sahifa, donc les feuilles de Jabir ibn Abdillah al-Ansari, wa Sahifa al-Sahifa al-Sahiha, allati yarwiha Hammam an Abi Huraira min hadithihi, et aussi al-Sahifa rapportée de Hammam, donc je pense à Hammam ibn Munabbih, un tabi'i, directement de Abu Huraira. Donc il a entendu les hadiths d'Abu Huraira, il les a mis dans une feuille. Ici, il dit, cette Sahifa, elle est dans le Musnad de l'imam Ahmed. C'est-à-dire complète. Tous ces hadiths-là, ils sont, si tu prends dans le Mousnad de l'imam Ahmed, tu prends Abu Huraira, donc tu as tous les hadiths qu'il a rapporté l'imam Ahmed qui se reviennent de Abu Huraira, et tu trouveras cette sahifa de Hammam qu'il a rapporté de Abu Huraira. Il dit, et même là il dit dans la marge, que ces feuilles qu'a rapporté Hammam de Abu Huraira, elles ont été éditées et authentifiées. C'est-à-dire quelqu'un il les a regroupés, il les a édités en s'assurant de leur source. Deuxièmement, les efforts des tabi'in. Donc ça c'était pour les efforts des sahaba. Maintenant les efforts des tabi'in radiallahu anhum dans l'écriture de la sunna. Talaqat tabi'un rahimahumullahu sunnah بل الدين كله عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقاموا بمهمة تبليغ الرسالة من بعد شيوخهم إلى الناس كافة فكانوا خير جيل بعد ذلك الجيل وقد بذل جيل التابعين في خدمة السنة وتدوينها وحفظها جهودا كبيرة وفيما يلي نماذج من تلك الجهود. إذ التابعون ont appris la sunna et ont appris toute la religion des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Et après les compagnons, ils ont pris cette mission de la transmission du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après leur shoyur qui étaient les sahaba, de transmettre ce message à tout le monde. Et donc ils étaient la meilleure génération après cette génération. Et ils ont prodigué des efforts, des très grands efforts dans la mémorisation et dans la protection de la sunna et dans l'écriture de la sunna. Et il va citer des exemples. Il dit « Awwalan » الحث على التزام السنة وحفظها وكتابتها والتثبت في روايتها وسماعها. Premièrement, dans l'encouragement à s'accrocher à la sunna et à mémoriser la sunna et à écrire la sunna et à s'assurer de la mémorisation et de l'écriture dans la transmission et dans l'écoute. Donc il dit سبق أن ذكرت طائفة من أن ذكرت طائفة من الأمثلة على ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول عند الكلام عن عناية التابعين ومن بعدهم بالسنة النبوية وأضيف هنا أمثلة مما لم أمثل له هناك وهو حثهم على كتابة السنة. Il dit, on a déjà cité, donc vous retrouverez ça dans les cours. Donc je rappelle par parenthèse que ça, on a déjà fait trois cours à Charleroi-Chapin sur ça. Ça c'est la suite. Donc pour comprendre le sujet, il faut tout écouter. Donc vous trouvez ça sur le site du frère Arnaud, Dhikr Allah. Le titre du cours c'est la Sunna et l'histoire du Hadith. Il dit, on a déjà cité des exemples sur les efforts qu'ils ont fait pour la Sunna, mais maintenant il va citer des exemples sur l'écriture de la Sunna. روى الخطيب بسنده من عدة طرق عن الإمام عامر الشعبي أنه كان يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط فهو خير لك من موضعه من الصحيفة فإنك تحتاج إليه يوما ما. يدي الإمام الشعبي donc الخطيب البغدادي avec une chaîne de transmission rapporte que l'imam عامر الشعبي disait à ses élèves, quand tu entends quelque chose, écris-le. Même si tu dois l'écrire sur le mur, c'est bon pour toi. Il dit, parce qu'un jour tu vas en avoir besoin, c'est-à-dire de ce que tu as écrit, pour réviser par exemple. وعن الحسن البصري قال ما قيد العلم بمثل الكتاب إنما نكتبه لنتعاهده. الحسن البصري disait, la science n'a pas été protégée par une chose telle que l'écriture, et nous n'écrivons que pour réviser. Ça c'est rapporté par Al-Khatib aussi. Et Abu Sa'id ibn Jubayr, donc un des grands tabi'in de la Mecque, disait كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَحِيفَتِي حَتَّى أَمْلَأَهَا ثُمَّ أَكْتُبُ فِي ظَهْرِ نَعْلِي ثُمَّ أَكْتُبُ فِي كَفِّي. Toujours rapporté par Al-Khatib, Sa'id ibn Jubayr disait, j'écrivais auprès d'Ibn Abbas radiallahu anhuma dans mes feuilles jusqu'à ce que je les remplisse. J'écrivais sur mes sandales. Et quand j'avais rempli mes sandales, j'écrivais sur mes mains. Subhanallah al-Azim. وعن صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة فقلت أنا ليس بسنة فلا نكتبه قال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. Toujours dans Taqid al-Ilm, il dit Salih ibn Kaysan, rahimahullah, un tabi'i, dit, je me suis réuni avec Az-Zuhri. Donc Az-Zuhri, dont on disait au début qu'il est le premier à avoir écrit les hadiths. Il dit, je me suis réuni avec Az-Zuhri et je lui ai dit, écrivons donc la sunna. Et nous avons écrit la sunna, c'est-à-dire ce qui venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je lui ai dit, écrivons, le Zuhri a dit à Salih ibn Kaysan, écrivons ce qui vient des compagnons, car c'est aussi la sunna. Et Salih ibn Kaysan, il lui a dit, moi je ne l'écris pas, c'est pas la sunna, parce que ça ne vient pas du prophète. Et après il dit, Az-Zuhri l'a écrit, ce qui est venu des compagnons, il dit, il a réussi et moi, dayat, c'est-à-dire je me suis perdu. C'est-à-dire il regrette de ne pas avoir écrit ce qui vient des compagnons. Ça confirme ce qu'on avait dit au début des cours à Shalom, sur la sunna, comme quoi chez les ulama, la sunna ça englobe aussi la voix des compagnons du prophète. وعن ابن شهاب الزهري قال لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابه. ابن شهاب الزهري lui-même رحمه الله dit, si ce n'était des hadiths qui nous viennent de l'Est, donc notamment d'Irak, et que nous ne connaissons pas, je n'aurais pas écrit un seul hadith et je n'aurais pas permis qu'on l'écrive. C'est-à-dire je l'écris pour protéger le hadith parce qu'on en entend plein et pour pouvoir distinguer le vrai du faux. وروى الخطيب من عدة طرق عن معاوية بن قرة قال كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما. Un autre parmi les tabi'in disait, nous ne comptions pas ou nous ne considérerions pas la science de celui qui n'écrit pas comme de la science. ثانيا تدوينهم للسنة في الصحف. Deuxièmement, l'écriture de, donc parmi les efforts des tabi'in, l'écriture de la sunna dans As-Suhuf, comme les compagnons l'ont fait. انتشرت كتابة الحديث في جيل التابعين على نطاق أوسع مما كان في زمن الصحابة، إذ أصبحت الكتابة ملازمة لحلقات العلم المنتشرة في الأمصار الإسلامية آنذاك. Il dit, l'écriture du hadith s'est répandue dans leur génération plus que ça ne l'était à l'époque des compagnons parce que ça devenait quelque chose de lazim, quelque chose d'essentiel dans les cercles de science qui s'étaient répandus maintenant dans les pays musulmans. Et parmi les causes de cette expansion de l'écriture à l'époque des tabi'in, il dit, « انتشار الروايات وطول الأسانيد وكثرة أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم » Comme on a déjà dit, la répansion des transmissions et la longueur des chaînes de transmission et la quantité et la multitude des noms, des kunyas et des ascendances à retenir des chaînes dans les chaînes de transmission. Parce qu'un sahabi, lui, comme on a dit, le sahabi, il dit, le messager d'Allah m'a dit, pas de chaîne de transmission, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, un tel compagnon m'a dit. Et à la limite, il peut même oublier son nom, parce que tous les compagnons, leur hadith, il a accepté. Les tabi'in, ils rapportent du compagnon. Donc c'est pareil. Ou alors il rapporte de quelques tabi'in qui sont entre lui et le compagnon. Mais les sirar al-tabi'in, donc les tabi'in plus reculés dans la chronologie, et la génération d'après, pour eux c'était plus difficile. Les noms ils commencent à se rallonger, les chaînes de transmission elles se rallongent, et donc il faut plus de mémorisation. Et donc ça les a amenés à écrire. Mautu kathiri min huffadi sunnati min as-sahabati wa kibari tabi'in, fa khifa bi dhahabihim an yadhhaba kathirun min as-sunnah. Aussi la mort de beaucoup des mémorisateurs de la sunna parmi les compagnons et parmi la grande génération des tabi'in. Donc j'ai expliqué les tabi'in eux-mêmes et chaque génération elle se divise en plusieurs générations. Donc kibar al-tabi'in c'est les grands tabi'in, pas grands dans la science, grands dans l'âge. Ça veut dire certains ils pouvaient même être plus vieux que certains jeunes compagnons, mais ils n'avaient pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors ils étaient juste un petit peu plus jeunes que certains des compagnons du prophète. Et donc certains ils sont morts et on a craint avec leur mort que la sunna se perde et donc on l'a écrite. ضعف ملكة الحفظ مع انتشار الكتابة بين الناس وكثرة العلوم المختلفة. Aussi la faiblesse de la capacité à mémoriser à cause de justement la répansion de l'écriture parmi les gens et aussi la multitude des sciences. Parce que la science au début elle est une, tu prends du prophète et t'appliques sallallahu alayhi wa sallam. Mais après la science elle devient science de l'explication du Coran, science de la lecture du Coran, science de la jurisprudence, science de ci, science de ça, et donc ça demande de plus en plus de préservation et donc d'écriture. ظهور البدع والأهواء وفشو الكذب فحفاظا على السنة وحماية لها من أن يدخل فيها ما ليس منها شرع في تدوينها. Aussi la répansion et l'apparition des innovations et des passions et du mensonge. Donc pour protéger la sunna de quelque chose qui pourrait y entrer et qui n'en fait pas partie, on l'a écrite. زوال كثير من أسباب الكراهة. La disparition de beaucoup des causes pour lesquelles les salafs détestaient l'écriture. Après, elles n'étaient plus présentes ces causes, donc il n'y avait plus de raison de détester l'écriture. وقد كتب في هذا العصر من الصحف ما يفوق الحصر وقد ذكر الدكتور مصطفى الأعظمي عددا كبيرا منها وذلك في كتابه دراسات في الحديث النبوي. Il dit, et les nombres de livres de la sunna qui ont été écrits dans la génération des tabi'in, on ne peut pas les compter. Et le docteur Mustafa al-A'zami, dans son livre « Études de la sunna prophétique » ou du hadith prophétique, en a cité un grand nombre. وأكتفي هنا بذكر نماذج من تلك الصحف التي كتبت في هذا العصر. Ici, il va citer des exemples. Donc, il va citer 8 exemples. صحيفة أو صحف سعيد بن جبير تلميذ بن عباس. Donc les livres de Saïd ibn Jubayr. Donc c'est un des grands tabi'in, l'élève d'Ibn Abbas à la Mecque. Sahifat Bashir ibn Nuhayk katabaha an Abi Huraira wa ghayri. Les feuilles de Bashir ibn Nuhayk qu'il a écrit de Abu Huraira notamment. Suhuf Mujahid ibn Jabr ou ibn Jubr, je ne sais pas comment on dit, Tilmid ibn Abbas. Qala Abu Yahya al-Kanasi kana Mujahidun yas'adu bi ila ghurfatihi fa yakhruju ilayya kutubahu fa ansakha minha. Les feuilles de Mujahid, le grand Mufassir, l'élève d'Ibn Abbas, et Abu Yahya al-Kinasi disait, Mujahid montait avec moi à sa chambre et il me montrait des feuilles qu'il avait écrites, donc d'Ibn Abbas, et je les recopiais. Sahifat Abi Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki, Tilmiz Jabir ibn Abdillah, يروي نسخة عنه وعن غيره أيضا. Après les feuilles de Abu Zubayr, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus, l'élève de Jabir ibn Abdullah, qui a rapporté de Jabir et d'autres aussi. Sahifat Zayd ibn Abi Unaysa al-Ruwahi. Sahifat, donc la cinquième, Sahifat Abi Qilaba, allati awsa biha inda mawtihi li Abi Ayyub al-Sikhtiyani. Les feuilles de Abu Qilaba, qu'il a donné, donc il a en testament, à Ayyub al-Sikhtiyani, parmi les tabi'in. صحيفة أيوب بن تميمة السختياني لفيد سيد أيوب السختياني صحيفة هشام بن عروة بن الزبير لفيد هشام بن عروة بن الزبير زبير بن العوام لكوبانو دي بروفيت دونك son petit fils وغير ذلك من الصحف الكثيرة التي رويت عن التابعين والتي كانت هي الأساس الثاني بعد صحائف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين Lima ulifa wa sunnifa fil qarnayni al-thani wa al-thalith. Et beaucoup d'autres feuilles et d'autres livres qui ont été écrits et qui étaient la base avec ce qui a été écrit à l'époque des compagnons pour ce qui sera écrit plus tard au deuxième et au troisième cycle. Thalithan, ici il finit le chapitre en disant Juhudul imamayni Omar ibn Abdul Aziz wa ibn Shihab al-Zuhri fi tadwin al-sunnah. Les efforts des deux imams Omar ibn Abdul Aziz et Ibn Shihab al-Zuhri dans l'écriture de la sunnah. Donc Omar ibn Abdul Aziz, c'était un calife. C'était 100 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notamment, l'imam Ahmed il disait, Allah a revivifié la religion par Omar ibn Abdul Aziz, quand il était calife. Et Ibn Shuhab al-Zuhri, donc, qui était de son époque, et qui lui était un savant. Donc Omar ibn Abdul Aziz était calife, mais il était aussi savant. Et Ibn Shuhab al-Zuhri, c'était un imam de la science, et c'était le shir de l'imam Malik. Il dit donc جهودهما رحمهما الله تعالى ورضي عنهما في نشر السنة وقمع البدعة قولا وفعلا أشهر من أن تذكر في هذا المقام وتراجع ترجمتيهما في سير أعلام النبلاء وغيره. Il dit leurs efforts dans la répansion de la sunna et la destruction des innovations par les actes et par les paroles sont assez connus pour qu'on les cite ici. Et celui qui veut les réviser regardera dans le livre de l'imam al-Zahabi, Siyaru A'lam al-Nubala. Donc, il y a un livre de biographie. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Abdillah ibn Dinar, qala, kataba Omar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm, Anzur ma kana min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faktubuhu, fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama, wa la taqbal illa hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa li tafshu al-ilm, wa li tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam. Al-Bukhari dans son sahih a rapporté de Abdullah ibn Dinar qui a dit Omar ibn Abdul Aziz, donc le calife, a écrit à Abu Bakr ibn Hazm. C'est qui Abu Bakr ibn Hazm? C'est lui al-Zuhri. Ibn Shihab al-Zuhri, c'est lui. C'est Abu Bakr, il s'appelait Abu Bakr ibn Hazm. Et Shihab c'était son grand-père ou son arrière-grand-père. Donc quand on dit fils de Shihab, en fait Shihab c'est pas son père. C'est plus haut, c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, je ne me souviens plus. Donc en fait, il s'appelle Abu Bakr ibn Hazm ibn Shihab al-Zuhri. Donc il lui a écrit en lui disant « Vois les hadiths que tu peux récolter du prophète sallallahu alayhi wa sallam et écris-les, car je crains que la science ne parte et que les ulama ne partent et n'acceptent que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut que la science se répande et assoyez-vous jusqu'à ce que celui qui ne sait pas sache, car la science ne se perdra pas jusqu'à ce qu'elle sera secrète. C'est-à-dire, tant que la science sera publiée et ouverte, elle ne se perdra pas. Et elle se perdra quand elle devient quelque chose de secret. وعن ابن شهاب الزهري قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. Ibn Abd al-Bari rapporte que Ibn Shihab al-Zuhri dit Omar ibn Abd al-Aziz nous a ordonné de regrouper les hadiths et nous les avons écrits cahier par cahier, daftaran daftaran, c'est-à-dire volume par volume, et il a envoyé chaque volume à chaque terre là où il avait, sur lesquelles il avait du pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, il envoie à telle région, il envoie tous les hadiths qu'ils ont écrits, parce qu'il les recopie donc en plusieurs exemplaires, et il dit qu'il a envoyé chaque exemplaire dans les différentes provinces qui étaient sous son pouvoir. Donc qu'est-ce que ça nous rappelle? Uthman ibn Affan, il avait fait ça avec le Coran. Donc le Coran il était répandu et aussi ils avaient protégé le Coran par l'écriture. Et Uthman il avait écrit le Mus'haf, il en avait fait des exemplaires et il l'avait envoyé dans les provinces. Donc regardez comment, un peu moins de 100 ans après, Omar ibn Abdelaziz il a décidé de faire la même chose avec le hadith. وروى الدارمي بسنده عن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. الدارمي aussi il a rapporté cette parole de Omar ibn Abd al-Aziz qui a écrit aux gens de Médine: regardez le hadith du prophète et écrivez-le, car je crains que la science ne se perde et que les gens de science partent. وروى الخطيب بسنده إلى الزهري أنه قال. Donc là, il cite la parole, pour faire court, je ne la répète pas, qu'on a déjà cité, quand il a dit, si ce n'était des hadiths qui nous viennent de l'Est et que nous ne connaissons pas, nous n'aurions pas écrit le hadith. Après, il répète encore ici, la parole de Salih ibn Kaysan, quand il raconte qu'il s'est regroupé avec Az-Zuhri, et ils se sont encouragés à écrire le hadith. Wa akhraj al-Hafiz ibn Abd al-Barr bi sanadihi ila al-Imam Malik qala awwal man dawwana al-'ilm ibn Shihab al-Zuhri. Et Ibn Abd al-Barr a rapporté la parole de l'imam Malik qui a dit: le premier à avoir écrit la science c'est Ibn Shihab al-Zuhri. ولعل المراد بهذا التدوين الشامل الذي بدأه فعلا الزهري بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز. وقد سبق أن ذكرنا أن الحافظ الخطيب البغدادي قد حرر هذا الموضوع في كتابه تقييد العلم وأثبت بالأدلة أن التدوين قد بدأ من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين أيضا.
Il dit, ce qui est voulu dans la parole de l'imam Malik, quand il a dit le premier à avoir écrit la science Ibn Shihab, c'est un tadwin shamil, c'est-à-dire une écriture globale qui essaye de regrouper le maximum de hadiths, et qu'il a bel et bien commencé sous l'ordre du calife Omar ibn Abdelaziz. Il dit, on a déjà mentionné que Al-Khatib al-Baghdadi il a bel et bien étudié ce sujet dans Taqid al-Ilm, et il a affirmé et montré avec des preuves claires que l'écriture a commencé à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons et des tabi'ines, elle était présente. Donc en fait maintenant à la fin de tous ces cours, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que toutes les paroles des ulama qui disent le premier à avoir écrit le hadith c'est Ibn Shihab, ce qu'ils veulent dire par là c'est l'écriture qui est visée pour elle-même, et l'écriture qui est la plus globale possible, et l'écriture qui est officielle. Parce que c'est une écriture officielle sous l'ordre du calife. Il lui dit écris un livre qui va servir à être répandu chez les gens. Et aussi c'est une écriture globale, c'est-à-dire il essaye d'écrire le maximum de hadiths qu'il connaît. Et aussi c'est une écriture visée pour elle-même. Alors que l'écriture auparavant elle n'était pas officielle, c'est-à-dire elle n'était pas faite sous l'ordre des califes, c'était chacun il le faisait pour lui. Elle n'était pas destinée à être répandue chez les gens. Chacun il le faisait, c'était pour lui, pour réviser ses hadiths ou alors pour ses élèves. Et elle n'était pas non plus globale. C'est-à-dire, il mettait dans ses feuilles, par exemple, ce qu'il a entendu de tel compagnon. Et il ne cherchait pas à tout regrouper dans un même livre. Donc en fait, c'est ça quand on dit la science, elle a été écrite. Ou le hadith a été écrit par Ibn Shihab. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas vrai de cette façon-là. Puisque ce qui est vrai, c'est que le hadith, elle a été écrit dès le début et dès la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est fini. Donc demain, le chapitre c'est pas moins intéressant, mais c'est plus technique. Il va parler de l'écriture après, donc dans le deuxième et le troisième siècle. Donc il y a une écriture qui change vis-à-vis de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Donc il va expliquer l'écriture du hadith à l'époque de l'imam Malik, etc. Et qui sont les imams qui ont été connus pour l'écriture du hadith. Et après il rentre dans l'explication ou une petite étude sur ce que c'est Al-Muwatta de l'imam Malik. Donc comme il me reste un troisième cours à faire, on le fera quand même Inch'Allah, parce que c'est intéressant de savoir un peu. On entend rapporté par l'imam Malik, rapporté par l'imam Ahmed, mais on ne sait ni qui c'est Malik ni Ahmed, et on ne sait pas ce que sont leurs livres. Donc Inch'Allah on va essayer, je vais essayer de vous donner un aperçu global. On ne va pas s'arrêter ici tout lire, parce qu'ici par exemple le Mousnad de l'imam Ahmed, il dit combien il y a de hadiths dedans, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils en ont fait les ulama de ce mousnad? C'est-à-dire certains ils l'ont compilé, d'autres ils l'ont arrangé dans le sens, le mousnad il n'est pas par chapitre. Certains ils ont repris tous les hadiths du mousnad, ils l'ont mis par chapitre. Ce qui est un travail énorme. et quelle est la place de ce mousnad chez les musulmans et dans la science du hadith. Donc on va voir ça, on va essayer de faire ça demain avec tous les livres connus, c'est-à-dire le Muwatta, le Mousnad et les six livres, c'est-à-dire le Bukhari, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasai et Sunan ibn Majah. On va essayer de faire ça demain, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa